Bonjour et bienvenue au Show Me Interdialogue, épisode numéro 87. Cet entretien est avec Damien Van Achter, journaliste et enseignant digital à l'Université d'Aix en Belgique. Damien, qui a fait un très beau discours TEDx, est également membre du réseau UNESCO UNESCO Advisory Board, participant activement dans la recherche des nouvelles initiatives et de l'innovation digitale pour l'Observatoire NetExpo. Dans cet entretien, nous parlons du métier du journaliste, l'activité des startups, le storytelling, l'apprentissage en ligne, issu de l'approche spéciale de Damien, qui mélange son passé de journaliste, entrepreneur et enseignant. Damien est un homme engagé avec une belle énergie, un homme à suivre. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour Damien.
Bonjour.
Racontez-nous qui vous êtes et ce que vous faites.
À la base, je suis journaliste. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Un journaliste un peu particulier parce que je me suis rendu compte assez vite que les nouvelles technologies étaient en train de changer la manière dans laquelle on produisait, on consommait de l'information. Et donc, historiquement, je suis un agencier. J'ai travaillé en agence de presse en Belgique, l'équivalent de l'AFP, mais en Belgique. C'est là que j'ai vraiment appris mon métier, en fait. Quand je suis sorti de mes études, j'ai eu cette chance-là d'aller très vite travailler sur les matières internationales, les matières économiques liées au changement de la nouvelle économie. Puis progressivement, je me suis amusé à bloguer, voilà, à aller me mettre en danger les certitudes que je pouvais avoir en tant que jeune journaliste par rapport au monde qui m'entourait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la force du réseau, voilà, tout simplement. C'est comme ça que j'imagine mon métier aujourd'hui, c'est dans ces interactions-là, c'est en étant force de proposition sur les chroniques, les sujets, les papiers, les reportages que je peux faire, et de les faire dans ces logiques de flux, voilà, qui font qu'on est sorti des cycles.
Alors Damien, donc journaliste, blogueur et aussi prof, racontez-nous le métier de professeur que vous portez.
Mais moi je ne me considère pas vraiment comme un professeur en fait. J'ai pas le titre déjà, j'ai pas fait des études pour être prof, mais j'ai passé beaucoup de temps avec des jeunes. Quand j'étais chef chez les scouts par exemple, c'était des moments importants dans ma vie et je me suis rendu compte qu'il y avait... Il y avait des choses qui se passaient autour du feu de camp. Et ça, c'est un truc qui est resté et que je me suis dit, voilà, il y a des écoles qui me font confiance, il y a des médias qui me font confiance pour former leurs journalistes. J'ai fait ça à l'RTBF pendant des années, essayer de former les journalistes à l'usage du numérique, des outils en fait. Mais ce qui est plus important que les outils, c'est l'état d'esprit qui va avec. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants, c'est de les empowerer eux-mêmes, de leur donner des outils, de leur donner... le mindset qui va faire en sorte qu'eux-mêmes vont se rendre compte que finalement être indépendant, entreprendre, ça peut être un vrai plan A plutôt que de se dire on va juste essayer de trouver un CDD ou un CDI pour faire plaisir à papa et maman. Voilà, c'est essayer de les mettre dans un état d'esprit, dans une disposition qui va faire que l'environnement que j'ai pu créer pour les cours que je leur donne fasse des étincelles.
Vous enseignez en Belgique, décrivez le cours et quel est l'intérêt qu'il porte, selon vous ?
Alors, je donne différents types de cours, mais c'est vrai que je ne donne jamais plus cours en auditoire. Je donne cours soit en ligne, complètement, soit je le donne en résidentiel, c'est-à-dire que j'emmène mes étudiants avec moi et on va se mettre au vert. Pendant 3 ans, on a fait ça dans une ancienne gendarmerie, dans mon petit village qui avait été retapé pour pouvoir accueillir des gens. J'ai moi-même, en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, essayé de comprendre les attentes, comprendre comment je pouvais apporter une plus-value aux étudiants. Il se fait qu'il y a 3 ans, j'ai co-créé un accélérateur de start-up en Belgique qui s'appelle Nestup, où j'accompagne des start-up au quotidien. Et très naturellement, en fait, mon cours, je l'ai hébergé au même endroit que les start-up se trouvent. Et donc... il y a une belle interaction qui se fait avec des start-upers qui viennent pitcher devant les étudiants, des étudiants qui réfléchissent à des projets, qui pitchent devant des start-up. Et le principe, c'est de faire ça pendant 4 jours d'affilée, où on travaille, on mange, on dort, on boit ensemble pendant 4 jours. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça l'environnement que j'essaie de créer pour que les étudiants se rendent compte qu'il se passe un truc, il se passe quelque chose et que finalement, je peux leur donner tout ce que je veux comme matériel. C'est à eux de s'en emparer et c'est eux qui feront la différence, c'est pas moi.
Damien, vous avez parlé du plan A, d'être entrepreneur. Dans une entreprise, le pot-au-feu et la possibilité d'avoir ces moments, quelles sont les consignes qu'on pourrait avoir dans une entreprise pour essayer de simuler, émuler ce type d'environnement que vous créez quand vous amenez vos étudiants en résidentiel, comme vous dites?
J'avoue que je suis un peu démuni par rapport au monde de l'entreprise tel que je le connais aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que l'entreprise est encore très très hiérarchique, très verticale, avec des silos au sein des entreprises qui, pour des raisons historiques, sans doute étaient dans une forme de management qui fonctionnait bien, qui amenait des résultats, qui était drivée par une économie qui de plus en plus est à court terme, avec un retour sur investissement et des indices de performance qui sont très mesurables et très quantifiables, et où on peut faire du reporting analytique. Et certes, c'est important. Le monde duquel je viens, le monde des médias, et ce monde-là, d'un point de vue économique, il est cassé. Il faut réinventer. Il faut réinventer des indices de performance, il faut réinventer des modèles économiques pour financer une activité journalistique qui, a priori, n'est pas de faire de l'argent. En tout cas, dans ma perception des choses, être média, diffuser de l'information, c'est du service public. Et donc, il faut le financer parce qu'il a un coût. Mais l'objectif n'est pas de faire de l'argent. Après, quand on travaille pour des groupes de presse privés, on sait dans quel jeu on joue. Et se poser la question de pourquoi on est média, c'est se poser la question de son actionnariat. C'est évident. Mais au moins, on sait dans quel jeu on joue. Comment on peut s'inspirer de ce que moi j'essaye de mettre en place au sein des entreprises? J'ai l'impression que le fait de décloisonner les teams est quelque chose d'intéressant. Faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble amène à un moment donné un vent d'air frais. Le truc, c'est qu'on peut se donner des moyens, des obligations de moyens, mais l'obligation de résultat, elle est limitante, elle est presque castratrice. Parce que c'est imposé dans le temps et généralement le court terme des résultats qui sont issus d'une manière de fonctionner du siècle dernier. Le siècle qui s'ouvre devant nous ici est manifestement un siècle de co-création de valeurs, de création de contenu et de storytelling où on montre ce qu'on a dans le ventre en fait. Et c'est une des choses qui moi j'apprécie beaucoup dans ce que le réseau apporte, c'est qu'on ne peut pas être faux très longtemps.
Donc Damien, vous avez décrit un process que vous avez fait, vous vous apportez avec le résidentiel, aussi en ligne. Quand vous faites, avec votre expérience aujourd'hui en ligne, de faire de l'apprentissage en ligne, parce que c'est un métier qui évolue, qu'est-ce que vous avez comme conclusion ou consigne pour bien réussir une formation en ligne?
D'être impliqué. C'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression que beaucoup de professeurs s'ennuient à leurs propres cours. et c'est marqué nulle part qu'on est obligé de s'ennuyer à son cours. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir se réinventer quand on fait ça. Et c'est compliqué, parce que ça demande de se remettre en question. Ça oblige quelque part à avouer qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on n'a pas forcément raison tout le temps, mais qu'on peut apporter des briques, qu'on peut apporter un état d'esprit. Et c'est pareil en ligne. Moi, mes étudiants, ils savent qu'ils peuvent me contacter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vais peut-être pas leur répondre tout de suite, mais ils savent qu'ils auront une réponse. Ils savent qu'à 22h30, un dimanche soir, si je suis connecté et qu'ils ont des questions, je pourrai répondre. Je considère que ça fait partie de mon boulot de les accompagner tout au long du processus que j'ai avec eux. Mon cours, c'est un instant T dans un continuum de temps. Il y a un avant, il y a un pendant, et il y a l'après. Et c'est une des meilleures raisons de donner cours, c'est de repérer les bons, ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui comptent pas leurs heures ni leur énergie, mais qui sortent leur trip quand on leur demande de faire des exercices ou de travailler sur la réalité. Moi, je travaille sur le réel. Quand on est en ligne, on n'est pas dans un bac à sable qui est hermétique à ce qui se passe au dehors, être présent sur les réseaux sociaux, c'est s'affirmer soi, c'est montrer qui on est, c'est dire on n'est pas des machines, on est des êtres humains et on avance dans notre carrière et on grandit et on se plante et on apprend des trucs. Et la construction du réseau, même si les boîtes qu'on peut lancer ne marchent pas, on aura appris des trucs et on aura construit des liens. Et ça, ça a de la valeur.
Finalement, Damien, vous avez parlé d'être en ligne, des réseaux, ce monde digital. Mais pour vous, c'est éminemment humain.
Ah oui, c'est vital, ça. Les machines, elles sont fantastiques parce qu'elles nous permettent de fluidifier des processus, de faire en sorte qu'un petit like, on tient la relation tendue. C'est ridicule, mais c'est ça, en fait. Et tous ces signaux faibles, ils ont du sens. Ils participent à créer de la confiance. La confiance, ça ne s'achète pas. La confiance entre un consommateur et un producteur, ça ne s'achète pas, ça se construit, ça se perd, ça se gagne au quotidien. Et c'est en ça que tous ces processus-là, je trouve, ont énormément de sens. Parce que, diable, si on n'a plus ça, c'est à désespérer de la nature humaine. Si on n'est pas capable de construire des relations qui apportent une plus-value dans les écosystèmes dans lesquels on gravite. Et moi, c'est le pari que je fais, en fait. C'est que si on est vrai, si on est droit dans ses bottes, si on a un bon produit, si on le consomme soi-même, son propre produit qu'on est en train de construire, l'argent sera une conséquence. L'argent est toujours une conséquence, c'est pas un prérequis. C'est le fait d'être bankable, c'est quelque chose qui arrive par après, quand on a réussi à vraiment s'attacher à résoudre un problème.
Souvent on dit, c'est créer la communauté, ensuite on verra pour l'argent.
Oui.
Damien, si ce n'est pas déjà le message clé, quel est le message clé que vous voulez que vos étudiants retiennent de votre intervention ?
J'ai pas la prétention de délivrer un message de voilà, je fais pas de l'évangélisation. Moi, ce que j'essaye de leur faire passer comme message, c'est que ce que je leur raconte, j'essaie de l'appliquer à moi-même. C'est important parce que qui on est quand on dit il faut faire ça alors qu'on le fait pas soi-même, c'est pas crédible, c'est pas consistant. J'essaie juste de leur faire comprendre que l'innovation elle est partout, elle est tout le temps, elle est chez eux, elle est à l'école, elle est au boulot, elle est avec leurs amis, elle est innover, c'est pas une fin en soi, mais changer le monde. Oui. Le status quo, il doit être challengé tout le temps. Sinon, quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie.
Damien, donner du sens, très visiblement, vous êtes important. En quoi la technologie joue un rôle dans la recherche du sens ?
Pour moi, à la base, la technologie, elle est agnostique. Quand on construit une plateforme, on espère que les gens vont l'utiliser. Mais a priori, on ne va pas faire de la modération de ce qui va se passer. C'est d'ailleurs un des grands enjeux de ce qui se passe pour l'instant. Mais toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux ont toujours dit « Nous sommes des hébergeurs, pas des éditeurs. » Sauf qu'on voit très très bien que c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Ils sont obligés de commencer à avoir un avis et d'éditer les contenus qui sont mis sur ces plateformes. Pour moi, la technologie, ça doit être un enabler. Ça doit ouvrir des portes, ça doit faciliter des processus, ça doit fluidifier la circulation de l'information, briser les silos, faire en sorte qu'un maximum de gens puissent se sentir comme une synapse dans le cerveau. C'est ça le peer-to-peer. C'est l'information, elle passe, on prend et on donne. Si on fait que prendre de l'information, on ne fait pas partie du réseau. Et l'information, elle nous contournera et elle continuera à circuler et le monde continuera de tourner sans nous. Si on veut faire partie du réseau, qu'il soit physique ou numérique, il faut prendre et il faut donner. Mais si on veut recevoir, il faut commencer par donner.
Super. C'est une image très humaine, en fait. C'est l'histoire que nous sommes des synapses dans un cerveau.
C'est très organique. Mais c'est comme ça que les réseaux se développent aujourd'hui. La techno facilite ça. Et ceux qui s'attachent à résoudre des vrais problèmes, c'est d'abord des vrais êtres humains derrière. C'est les patrons qui sont derrière les comptes Twitter, qui font le service après-vente, qui fonctionnent et qui marchent, peu importe la taille de la boîte. Si c'est juste le service après-vente et que le patron, pendant ce temps-là, il roule en Porsche, ça ne marchera pas très longtemps.
Parlons du patron et des entreprises Damien, quelles sont les consignes pour qu'une entreprise puisse bien bénéficier de ces nouveaux médias?
Moi, je pense qu'une des choses qui est essentielle, c'est se raconter. C'est raconter le processus en train de se faire. Toutes les entreprises sont médias. Toutes. Elles publient, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, elles ont compris l'intérêt d'aller chercher du feedback. Beaucoup d'entreprises sont encore très très fortes dans une logique de push. On a bien vu que ça marche pas, ça. C'est ce que font les médias depuis qu'ils sont médias. C'est manger tes toits. C'est, voilà. Les tuyaux n'ont jamais été aussi gros qu'aujourd'hui. C'est des tuyaux qui sont à double sens. Et je pense que la nature même du réseau fait en sorte que les entreprises qui vont réussir à s'inscrire dans ces dynamiques-là sont des entreprises qui vont littéralement se mettre à plat. On va écraser les hiérarchies et on va faire en sorte que les murs de l'entreprise soient le plus poreuses possible. Parce que cette porosité-là va apporter à un moment donné une forme d'évolution qui va faire en sorte qu'on va se tromper rapidement. On va fermer beaucoup de portes rapidement pour garder les portes ouvertes sur les vraies innovations et sur les vrais challenges qui vont y avoir derrière. Et de nouveau, la technologie ouvre et facilite ça. Et on ne pourra pas aller contre. On ne reviendra pas en arrière là-dessus. Quand on observe les jeunes utiliser les outils, ils en ont un usage très ludique. C'est marqué nulle part qu'on devait s'ennuyer en travaillant. C'est d'ailleurs une des choses qui est absolument géniale, c'est quand on arrive à n'avoir jamais l'impression de travailler. Parce qu'on travaille beaucoup quand on est dans cette situation-là. Mais se raconter, c'est pas dire on est les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Personne n'y croit. On a tous la possibilité de le vérifier et de voir que vous n'êtes pas le plus grand, le plus beau, le plus fort. Par contre, de dire on essaye de faire des choses. Et voilà le process dans lequel on est engagé. Voilà ce qu'on va tenter. Jeter des bouteilles à la mer. Et 9 fois sur 10, personne ne va s'en emparer. Moi, je me plante tous les jours. Mais quand on se micro-plante, ça permet deux choses. Ça permet d'être humain, de dire on n'est pas des machines, ça permet d'apprendre de ses erreurs, ça permet aussi de jouir beaucoup plus facilement de ses succès et de ne pas être dans cette mentalité très franco-française, voire même très européenne, d'être honteux quelque part de sa réussite, de gagner de l'argent. Assumer ses échecs, c'est aussi jouir pleinement de ses succès, et ça, c'est, il n'y a personne à partir du moment où on est ouvert à ça et où on le raconte et où on l'explique qui vous en veut quand vous êtes droit dans vos bottes et le plus intellectuellement honnête possible pour vous le raconter.
Finalement, Damien, quand vous parlez de se raconter, j'ai l'impression que c'est aussi une question d'accepter de présenter l'imperfection.
Oui, c'est quelque chose qui manque énormément dans le monde des médias. Le monde des médias que moi j'ai connu quand j'ai commencé à travailler, le monde des médias que malheureusement, quand j'allume encore ma télévision aujourd'hui, on découvre, ce sont des journalistes qui sont enfermés dans leur tour d'ivoire. Alors, ce n'est pas le cas de tous, et beaucoup comprennent que les choses sont en train de changer. Mais je pense que c'est intellectuellement malhonnête de ne pas accepter en tant que journaliste que observer un phénomène, c'est l'influencer. Et beaucoup de journalistes essayent encore de nous faire croire qu'ils ont une vision d'hélicoptère de ce qui se passe et que ils sont objectifs, que les choix qu'ils font de parler ou de ne pas parler, parce que ne pas parler c'est un choix, ont une influence. Et je préfère 100 fois la posture intellectuelle qui dit j'assume, je dis je, mais faites-moi confiance et on va créer de la confiance derrière. Pour faire du commentaire, pour faire de l'analyse, il ne faut pas être journaliste. Voilà. Tout le monde a le droit à la parole, la liberté d'expression, pour moi c'est ça fondamentalement, c'est le droit de raconter des bêtises. Aussi, quand on est journaliste, on se met au service des gens, on se met au service de nos audiences, pas de nos rédacteurs en chef. Et donc, oui, c'est une forme d'acceptation et d'humilité de toutes nos imperfections qui vont faire qu'à un moment donné, grâce aux audiences, on va être meilleur, et donc on va faire mieux notre métier, on va faire mieux notre boulot, et on arrêtera de faire croire qu'on peut traiter toutes les informations du monde et de la Terre en experts, qu'on n'est pas. Les experts, ils sont en ligne, ils sont au café du commerce, ils sont ailleurs que dans les rédactions. Mais les journalistes doivent être ces passeurs, ces transmetteurs, ces médiateurs de l'information, les redevenir en tout cas, et arrêter de bâtonner de la dépêche.
En vous écoutant, Damien, je pense à l'astrophysique, le fait d'observer a une influence sur l'article observé. Vous avez parlé de l'ouverture et ça m'amène vers la transparence. qu'en est-il, jusqu'où faut-il aller dans cette notion d'être ouvert et d'être transparent en entreprise? Il faut se raconter, mais y a-t-il des limites?
Oui, bien sûr. La notion de transparence, elle est à double tranchant, je trouve. Moi, je préfère la notion d'accountability, être redevable, voilà. Savoir d'où on vient, savoir par qui on est financé, savoir par qui on vit, qui donne du sens à ce qu'on fait, et être redevable par rapport à nos audiences, à nos utilisateurs, c'est oui, ça, bien sûr. Donc la transparence, c'est un terme qui a été utilisé à toutes les sauces, notamment en politique. Un peu un cache-sexe derrière tous les manquements qu'on pouvait avoir dans la transmission ou pas d'informations. Ce qui est assez dingue de constater, c'est que les lois, et dans beaucoup de pays européens c'est le cas, les lois obligent à la publicité d'un certain nombre de documents, et je prends le cas de la Belgique, que je connais plutôt bien, c'est pas le cas. Donc l'open data est quelque chose qui participe de ça, dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, dans les institutions. Je pense que cette forme de transparence-là, de mettre à disposition les data brutes, validées, certifiées, permet à un moment donné de, un, créer de la confiance, et deux, de créer de la valeur. Parce que quand des gens, quand des entrepreneurs, quand des citoyens, à un moment donné, ont confiance dans les chiffres qui nous sont donnés, dans les data auxquels on a accès, qui sont utilisables et réutilisables par nos machines, on peut créer de la valeur. On peut créer des nouveaux services. On peut faire des mash-up. On peut... Voilà, et c'est là, à un moment donné, le pari qu'on fait quand on est transparent, c'est qu'on va donner à voir un certain nombre de choses qui peuvent paraître être tellement obvious en interne qu'on ne voit plus leur intérêt. Et que d'autres, avec leur prisme, leur background, leurs propres problèmes, vont s'en saisir et vont créer de la valeur par là. Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'ouvrir un processus et dire aux gens « emparez-vous-en ». Remixer, c'est ça la culture, c'est ça. Enfin, on n'invente jamais réellement rien. Les idées, elles sont pas chères. Une idée, ça vaut rien. Une idée, ça prend de la valeur à partir du moment où les gens s'en emparent et commencent à la travailler, à en discuter, à challenger et puis éventuellement à créer du pognon derrière. Mais une idée, ça vaut rien. On n'est pas plus malin les uns que les autres. Donc, si quelqu'un peut avoir une idée aujourd'hui à Paris, il y a fort à parier qu'il y a d'autres êtres humains à l'autre bout de la planète qui peuvent l'avoir, cette même idée. Donc, la différence est dans l'exécution. C'est pas moi qui le dis. Voilà, je m'inspire aussi de tout ce que je peux entendre autour de moi.
De prendre le meilleur de ce qu'il y a.
Oui, c'est ça. C'est de faire en sorte d'adapter en fonction de la culture, de l'endroit où on vit, de la temporalité aussi. Mais c'est. Voilà, c'est dans ces processus-là, je pense, qu'on crée de la valeur. Donc la transparence en tant que telle n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est la vision qu'on en a et pourquoi on le fait. Dans ma propre manière de travailler, j'ai acheté un véhicule que j'ai modifié. Les communautés en ligne m'ont aidé à le transformer en une newsroom mobile avec des spécificités, avec du matériel. L'important, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, moi, je ne suis pas un vendeur de bagnoles. Le modèle économique de ma société n'est pas de vendre des voitures. Donc, le code source du véhicule, je l'ai ouvert. Tout est en ligne. J'ai expliqué, voilà, si vous voulez faire la même chose, voilà le plan de route, voilà par où il faut passer, voilà les outils que j'ai utilisés. Vous ne cassez pas la tête à refaire un benchmark sur le modem à mettre dans le coffre. Je l'ai fait. Et je vous offre le fruit de mes résultats. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est ce que vous allez en faire.
Le plan de route, c'est le cas de le dire. Damien, dans votre discours sur TED, vous dites « Nous sommes tous des hotspots humains ». Comment favoriser cet état d'esprit en entreprise?
Il y a le mot « humain » là-dedans. Et donc, c'est avant tout une question de bonhomme. C'est des gens. Et on a tous notre vécu, nos heurts, nos malheurs qui nous construisent. L'analogie que j'ai prise avec le hotspot, c'est parce que J'ai un paternel qui m'a beaucoup inspiré dans ma propre manière, moi, de vivre. Et sa façon de voir les choses en tant qu'ostéopathe, c'est qu'on dégage des ondes. Et on a des méridiens d'énergie qui nous traversent. Et on peut tous offrir nos bonnes ondes, quoi. Ça commence par un sourire, ça commence par une attitude, ça commence par comment on se présente vis-à-vis des gens. Le body language, c'est pas pour rien que ça a été aussi mis en avant, mais... C'est un état d'esprit, en fait. Être un hotspot, on peut brider les connexions, on peut empêcher de se connecter à Facebook au boulot, ben on peut empêcher les gens de se connecter à vous. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans l'approche qu'on peut avoir par rapport aux gens, le regard qu'on peut avoir, les poignées de main qu'on peut avoir, on donne déjà à voir beaucoup de choses. Pas besoin de le tweeter, ça. Ça se ressent, ça se partage, c'est très implicite. Ça se mesure pas, ça se quantifie pas, mais ça se ressent, c'est du feeling. C'est pour ça que le présentiel est important. On peut faire beaucoup de choses en ligne, mais il y a des odeurs, il y a des feelings qui passent pas encore par l'écran, pas encore. Ça va peut-être arriver. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, et c'est ce qui fait que ça a de la valeur de se lever le matin, de s'habiller, de prendre sa voiture, de prendre le métro, de prendre le train, l'avion, et d'aller physiquement rencontrer des gens. En entreprise, c'est pareil. On peut faire plein de choses en ligne, de plus en plus. En télétravail, à distance, sur plein de fuseaux horaires différents, construisons de la valeur de cette manière-là. Mais même ceux qui fonctionnent comme ça, si on prend des boîtes comme WordPress ou comme d'autres qui sont complètement éclatées, complètement décentralisées, les moments où ils se retrouvent tous au même endroit, physiquement donné, ça a du sens. Donc faire en sorte que quand on se réunit, il y a une vraie plus-value, ça c'est intéressant. Je pense qu'on peut supprimer 95% des réunions en entreprise parce qu'elles servent juste à rien en fait.
Faudrait installer un pot-au-feu.
Par exemple, ouais.
Damien, vous êtes journaliste. Le métier de journaliste est en pleine mutation. Comment est-ce que les entreprises peuvent appréhender cette mutation, quelque part, même si je ne suis pas un média, enfin, pas affiché média? Et quelle place aurait un journaliste, le rôle du journaliste en entreprise?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que se définir comme étant un journaliste... Alors techniquement, moi, je ne suis plus journaliste. Je n'ai plus de carte de presse. Parce que la loi de 1968 en Belgique impose de gagner sa vie avec une activité majoritairement journalistique, et ce qui n'est plus le cas, et voilà, je l'ai déclaré très, très ouvertement. Par contre, je pense que j'ai toujours une casquette de journaliste sur la tête et que ça ne me quittera pas. Et pour beaucoup de journalistes, je pense qu'on est tous dans la même situation. On a conscience que les choses sont en train de bouger, on a conscience qu'effectivement les modèles économiques sont cassés, qu'il faut les réinventer, mais on n'a pas envie de se mettre au service d'une marque. On n'a pas envie de vendre des carpettes, si je dois être très brutal en le disant. Et donc, ça pose une question qui est viscérale. Et je pense que c'est pour beaucoup d'employés la question va se poser. C'est qu'on ne peut plus travailler pour une entreprise dont on ne partage pas un certain nombre de valeurs. Il faut le sentir. C'est du gut feeling. C'est pourquoi est-ce que je vais aller m'engager auprès d'une boîte? Ce n'est pas parce qu'elle me rémunère. C'est parce que je partage des centres d'intérêt, des valeurs communes, que je crois dans les produits que la boîte construit. Parce que les êtres humains qui composent la boîte sont des gens que j'apprécie. Après, on n'est pas à Bisounours Land. Et donc, il y a des contingences, il y a des contraintes, il y a des processus, il y a des objectifs de rentabilité. On ne va pas réinventer le monde en deux coups de cuillère à peau. Par contre, je suis convaincu que dans les entreprises, effectivement, les capacités de storytelling que peuvent avoir des professionnels de l'information, oui, il y a une vraie plus-value derrière. Parce que ce qui est vraiment très important, c'est la véracité des faits. Si on est béton sur les faits, si factuellement on est correct, l'interprétation, l'analyse, le commentaire, tout le monde y a droit. Et c'est ça qui est intéressant quand on voit des grandes entreprises engager des journalistes. Je pense que ceux qui le font ont conscience qu'on ne peut pas ouvrir cette porte-là sans justement faire preuve d'un minimum de transparence par rapport à ses propres chiffres. Mais c'est évident que ça a un vrai intérêt de contrôler la chaîne de production de valeur et de soi-même se raconter, et de soi-même donner à voir un certain nombre de choses. C'est une évolution assez logique, finalement, parce que les entreprises, beaucoup d'entreprises, ont les moyens maintenant de savoir exactement à qui ils s'adressent. Et qu'un vendeur de soda va peut-être faire du storytelling autour de la déforestation en Amazonie, parce qu'ils savent bien que dans leur audience, ils ont des gens qui sont intéressés. By the way, on vend du soda. Mais voilà, c'est ça aussi à quoi servent les data qu'on peut collecter. Malheureusement, beaucoup de médias ont loupé ce coche-là. Quand on voit ce que Netflix est capable de faire maintenant, pourquoi est-ce que les chaînes de télé traditionnelles n'ont pas toutes les 10 minutes un bouton qui dit « oui, je suis toujours en train de regarder » Peut-être parce que les gens ne regardent plus.
Damien, vous avez parlé de storytelling, vérification, data, l'ouverture, transparence, et le mot qui est survenu plusieurs fois, c'est le mot de la confiance. En quoi c'est important, ce mot de confiance aujourd'hui?
Je pense que quand on n'a pas confiance, on ne peut pas bouger librement. Et ça se construit, et ça se perd. Et c'est ça qui, je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on décide de se lever le matin. La notion de confiance, elle est très très intangible en fait. Mais ça passe par plein de petites choses. Et de nouveau, les technos permettent, à distance, sans même jamais s'être rencontrés physiquement, de commencer à créer de la confiance, de commencer à créer du lien. J'adore voir la visualisation qu'on peut avoir quand on suit un tag sur Twitter. C'est magnifique de voir qu'à l'échelle de la planète, des gens parlent tous de la même chose. En tout cas, beaucoup de gens parlent de même chose au même moment et se connectent les uns aux autres. Est-ce qu'ils créent de la confiance? J'en sais rien. Mais on rend possible des échanges, des conversations, de la création de valeur. Appelons ça de la confiance si on veut appeler ça de la confiance. C'est sans doute le terme le plus adapté, mais c'est la création du réseau qui est physique et qui est numérique. Et c'est la composition des deux qui ouvre à un moment donné et qui offre des leviers d'action qui sont très très importants. Le terrain physique et le terrain numérique, ils sont définitivement intrinsèquement liés. Et donc, ça n'a aucun sens de chercher à les séparer. Donc, créer de la confiance en ligne et sur le terrain, physiquement, ça s'additionne. Et c'est même plus que de l'addition, je dirais. C'est même exponentiel.
Le fait que NetExpo est hébergé à l'UNESCO, en quoi c'est important pour vous?
Parce que c'est le monde. C'est le monde entier qui est là. Moi, je trouve ça génial de pouvoir rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde, de confronter nos points de vue, de confronter des idées, de ne pas forcément être d'accord, mais d'avoir ce respect-là de la différence. Je pense qu'on est tous animés quelque part de la même intention, c'est de découvrir de quoi demain sera fait, d'anticiper un peu pour faire partie de ce demain et d'embarquer avec nous nos étudiants pour qu'eux aussi en fassent partie. C'est pour ça que moi je participe à l'équipe.
Excellent. Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, themindset, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.